Premier mot. Édouard avait peu dormi. Il pensait à Élise. Il ne pensait qu'à elle. Aucune autre idée ne trouvait place en lui. Il essayait pourtant lire, ranger quelques affaires, écouter les bruits de la maison. Installé à la petite table devant la fenêtre, il regardait la forêt, les vergers de l'autre côté du chemin, les quelques maisons endormies dont les cheminées ronronnaient. Élise était partout. Ce qu'il vit soudain lui coupa le souffle. Raymond était apparu au coin de sa maison et marchait vers le fond du pré, le corps inerte de Nimbus dans les bras. Les pattes brinque-ballées dans le mouvement ne laissaient aucun doute. Sabots de bois aux pieds, l'homme marchait d'un pas lent dans l'herbe d'automne, le dos droit, l'allure fière. Il portait le chien et tout le chagrin du monde. S'il baissait les épaules, il s'écroulait. Édouard vit le gouffre et en eut le vertige. On n'en verrait pas le fond et Raymond y disparaîtrait pour quelque temps. Le chiot n'y pourrait rien, sauf à être la petite luciole qui éclaire le sentier qui remonte. Il enfila sa veste et la ferma en descendant l'escalier, passa chercher une pioche dans la grange de Gaël et s'en alla le rejoindre. L'homme creusait le trou avec sa pelle et sa peine, non loin d'un vieux poirier. Le corps de l'animal gisait à côté de lui, dans un cercueil de verdure. En arrivant, Édouard se tut. Raymond ne répondit pas. Ils creusèrent ensemble une heure durant. Le chien n'était plus très gros en cette fin de vie valétudinaire. En revanche, le sol dense et la terre lourde imposaient l'effort. La pluie irrégulière imprégnait la région d'une humidité permanente qu'on ne voyait parfois qu'en creusant le sol. Gauvin s'approcha, penaud et perdu, plus muet que jamais. Il portait deux branches tordues et un lien en cuir, s'assit à côté du corps inerte, son canif à la main. Il commença à graver l'écorce. Vénus tournait autour du chien. Elle lui donnait des coups de museau, fouissait entre ses pattes, se reculait, jappait, sautillait, puis revenait contre lui pour le stimuler. Sentait-elle encore une chaleur dans le sang qui laissait à son instinct un espoir? Le cœur s'était arrêté pourtant. Raymond se refusait à laisser la mort installer la rigidité qu'elle inflige aux êtres froids. Il ne s'était jamais remis de cette sensation, à l'âge de 12 ans, quand on l'emmena prier sa grand-mère une dernière fois. Il voulut lui prendre la main. Personne ne l'avait prévenu de la pierre froide, couverte de peau humaine, de l'entrelac de doigts glacés, scellés à jamais. Gaëlle arriva en dernier, blottie dans un grand gilet. Elle resta en retrait, la seule à pleurer, la seule à ne pas être dans l'action pour transformer le chagrin en mouvement. Édouard s'occupa d'installer au fond du trou la couverture qu'avait prise Raymond. En s'approchant du corps, il vit Gauvin se pencher vers l'oreille de Nimbus et crut entendre un chuchotement, un « bon voyage » encourageant. Il disposa ensuite le corps en essayant de lui donner la forme qu'il avait dans son panier quand il dormait près du fauteuil. Il recouvrit Nimbus des pans de tissu à carreaux épais. Le temps d'un sanglot, le vieil homme posa un genou à terre en s'accrochant à sa pelle. Il ne verrait plus son compagnon. La couverture venait de le lui dire. Vénus gémissait au bord du trou, tentait d'y sauter, si la hauteur ne l'avait pas tant impressionnée. Puis elle escalada Raymond qui s'assit dans l'herbe pour la prendre contre lui. Elle léchait les larmes au fil de leur apparition sur les vieilles joues creusées. Édouard reboucha seul le trou béant. Cette fosse ressemblait au vide qu'il ressentait au fond de lui depuis qu'il avait quitté Élise. Elle ne lui avait envoyé qu'un seul message, pour lui quémander une chance de se parler, de s'expliquer. Il avait répondu qu'il réfléchissait. Ce qu'il fit en comblant l'excavation. Quand enfin le monticule de terre fut tassé, à peine plus élevé que le reste de la prairie, Gauvin planta la croix dans le sol meuble. Puis il partit en courant vers la clairière. « Prends Vénus avec toi !» lui lança Raymond. Le garçon ne se retourna qu'une trentaine de mètres plus loin, le visage défait. Il s'arrêta pour attendre l'animal, claqua à plusieurs reprises ses mains sur ses cuisses pour l'appeler. La petite chienne hésitait, n'osait pas laisser derrière elle le vieux chien et son maître. « Viens, Vénus !» cria-t-il enfin. Édouard se tourna vers Gaëlle. Raymond l'avait enveloppé de son bras et ils souriaient tous les deux, au milieu du chagrin. La vie et la voix reprenaient vite leur droit comme le chant des feuilles après un hiver froid. Ils virent alors Adèle se diriger vers eux, la démarche chaotique, ses béquilles s'enfonçant dans l'herbe, À leur hauteur, elle sortit de sa poche une fleur en tissu qu'elle avait cousue et l'accrocha à la croix de Gauvain. Puis elle s'assit sur un tronc couché d'un vieil arbre fruitier à quelques mètres du poirier. « Je peux m'asseoir à côté de toi ?» lui demanda Édouard alors que Gaël et Raymond repartaient vers les maisons.
« Oui, bien sûr. »
« J'ai une proposition à te faire. »«
Une proposition ?»«
Tu me laisses finir et tu me diras après ce que tu en penses, d'accord ?»«
D'accord. » »«
J'ai quitté ma femme et déjà ?»«
Laisse-moi finir, je te dis. »« Je vais aussi quitter mon boulot et Paris. » »«
Tout quitter, quoi. » »«
Voilà. » »«
Tu gardes quand même ta voiture ?»«
Tais-toi. » »«
Pardon. » »« Je me sens bien ici. »« J'ai envie de faire des automates. » »« C'était mon rêve. » J'ai aussi hérité de mes parents récemment.
De quoi tout quitter,
Adèle. Il faut vraiment que tu me laisses finir, sinon je ne vais jamais y arriver. La jeune femme s'excusa encore, émue devant le tableau touchant d'un homme qui semble sur le point de se confier, gêné par ce qu'il va dire. Elle l'écouta sans l'interrompre.
J'ai repéré une bâtisse à Tréhorontuc,
l'endroit idéal pour installer un atelier. Pas très loin d'ici, 2 kilomètres à peine par les chemins. Par contre, c'est un peu grand pour moi. Et surtout, une partie des bâtiments est une ancienne auberge. Or, tu sais qu'il n'y a pas vraiment de restaurant dans ce bourg, alors que le village est très touristique durant la saison d'été. J'ai pensé à tout ce que tu m'as dit. Tu sembles heureuse ici. Tu m'as parlé de ta mère qui ne l'est pas. Elle a une longue expérience dans la restauration, alors je me suis dit que je pourrais acheter ce bien, en garder une partie pour moi, y vivre et mettre mon atelier. Et vous pourriez vous installer avec ta maman dans la partie auberge pour la faire tourner l'été avec quelques chambres à louer. Et puis, l'hiver, ma foi, vous pourriez faire de la couture, vendre vos créations sur les marchés ou par Internet. Qu'en dis-tu ? L'homme se tourna vers Adèle, qui avait baissé la tête et dont les longs cheveux tombaient sur ses cuisses. Elle ne réagissait pas, ne bougeait plus. Seules ses mains se tordaient entre elles. Il hésita longtemps avant de soulever avec délicatesse la mèche noire qui masquait sa joue blessée.
« Tu pleures ?»«
Oui. »«
Tu ne trouves pas l'idée bonne ?»«
Si. »«
Alors pourquoi tu pleures ?»«
Parce que tu me fais confiance. »« Et tu fais confiance à ma mère sans même la connaître. »«
Tu crois en nous. »« Tu es prêt à nous aider alors qu'on se connaît à peine. »« Et après ce que j'ai fait ?»«
Justement. » Après ce que tu as fait, j'ai envie de t'aider. Et la situation de ta maman ne s'arrangera pas. Il faut la sortir de là, non ?
Si.
Tu viendras visiter avec moi ? J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Adèle se tourna et se posa contre lui. Sa jambe plâtrée ne suivit pas, et les poignées de béquilles se fichèrent dans leur ventre. Peu importe. Elle n'avait plus mal nulle part. Et Édouard avait le cuir épais.